toutes, bonjour à tous. Notre tête chercheuse de ce samedi est Julie Pilorger, spécialiste du Moyen-Âge et qui nous parle du statut des femmes, loin des clichés et des idées reçues. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'au Moyen-Âge, le seul statut de la femme, c'était le mariage et la procréation?
Alors, c'est un des statuts, mais en réalité, il y en a trois. Les trois statuts de la femme au Moyen-Âge, c'est celui de vierge, d'épouse et de veuve. Et effectivement, au travers de ces trois dénominations, on pense d'abord la femme au travers du mariage. On voit d'ailleurs dans les sources qu'elle est soit citée par rapport à son père, lorsqu'elle n'est pas mariée, ce qui suppose également bien sûr qu'elle soit vierge, soit par rapport à son mari, une fois qu'elle est mariée, et lorsqu'elle devient veuve, elle est présentée par rapport à son mari, si elle s'est remariée, mais également par rapport à ses précédents maris, ce qui peut donner Jeanne, femme de René, auparavant veuve de feu Jacques et auparavant veuve de feu Bernard. Donc on voit vraiment effectivement que le but pour la femme, c'est de se marier. D'ailleurs, lorsqu'elle n'y arrive pas, on peut avoir l'instauration dans certaines municipalités, notamment au sud de la France, de communautés d'organismes de charité qui vont aider ce qu'on appelle les jeunes filles à marier, et afin de leur constituer une dot, puisque le premier empêchement au mariage pour une femme peut être effectivement le fait qu'elle n'ait pas de dot, c'est-à-dire de biens, de patrimoine à amener en ménage. Soit elle est issue d'une famille riche qui va, en tout cas aisée, qui va lui permettre de constituer cette dot, soit elle la constitue elle-même parfois au cours d'un apprentissage qu'elle peut entamer dès ses 10, 12 ans, même parfois plus tôt, soit dans certains cas, elle peut avoir recours à ces organismes de charité ou à un bienfaiteur qui lui constituera cette dot.
Alors on parle du Moyen-Âge en France, est-ce que quand on évoque ce statut de la femme, Julie Pilorger, on parle de toutes les femmes ou uniquement des femmes du peuple, comme on disait?
Alors pour ma part, donc, je réalise une thèse sur la place des femmes en ville à la fin du Moyen-Âge. Par cela, j'entends étudier les femmes de la bourgeoisie. Alors, ce qu'on appelle la bourgeoisie à l'époque, c'est des artisans, des marchands aisés, mais pas forcément tant que ça. C'est-à-dire c'est les personnes qui habitent en ville. Alors déjà, ça c'est une distinction très importante, c'est qu'on a beaucoup moins de renseignements sur le statut des femmes à la campagne et beaucoup plus sur les femmes en ville. Donc on parle de manière plus générale des femmes de la bourgeoisie et du petit peuple. Et lorsqu'on va parler des femmes de l'aristocratie, on va bien sûr faire la distinction en parlant des femmes de pouvoir. Et au-delà de la distinction de statut, de l'aristocratie, de la bourgeoisie ou du petit peuple,
social, le statut
social, voilà, un statut donc urbain ou rural, il faut aussi faire une distinction entre le nord et le sud. Puisqu'on a effectivement une Europe du Sud, donc plus misogyne, il faut le dire, plus attachée notamment au droit romain, où la femme reste et plus confinée à l'intérieur domestique qu'au nord. Les Lombards, qui vont notamment se rendre en Belgique, donc dans les grandes villes marchandes de Caen, Anvers au Moyen-Âge, seront souvent surpris de voir les femmes marcher dans la rue sans voile, la tête nue, sans escorte. Et il est vrai qu'au nord de l'Europe, au nord de la France, alors j'entends, c'est-à-dire l'Europe urbanisée, donc le sud de l'Angleterre, le nord de la France, les Flandres, on a des femmes qui ont un statut beaucoup plus grand dans la société. Les sociétés médias leur offrent de multiples possibilités d'exercer des rôles sociaux, économiques, religieux d'importance, notamment en raison donc du patrimoine et du statut de la communauté. Lorsqu'un homme et une femme se marient, dans la coutume notamment picarde, la femme est propriétaire de la moitié des biens avec son époux. Et on va également instaurer très vite au nord de l'Europe les douaires, sur lesquels pourra revenir, qui sont ces gains de survie que l'on va donner aux femmes en cas de décès de leur époux.
Et qu'on ne retrouve pas dans le sud de la France et de l'Europe, du coup.
Voilà. Donc il faut, c'est vrai, toujours faire cette distinction, et j'essaye de la faire systématiquement. On ne peut pas faire de généralité, on ne peut pas parler des femmes en Europe, ça n'existe pas. Il faut parler, voilà, des femmes en ville, à la campagne, au nord, au sud, selon également le statut qu'elles ont dans la société et selon les âges de la vie aussi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, une jeune fille, une femme mariée ou une femme veuve.
Comment se mariait-on à l'époque ?
Alors, l'âge déjà, on se marie plus tard au nord qu'au sud, en moyenne vers 22-25 ans à peu près. Alors au nord 25 ans, plutôt 22 ans au sud. Mais ça varie et l'âge a tendance à reculer à la fin du Moyen-Âge. Notamment en raison des crises et aussi parfois du besoin de se constituer un patrimoine avant d'entrer en ménage. Lorsque l'on souhaite se marier, il faut depuis le 12e siècle, le concile de Latran va renforcer la chose en 1215, publier des bans afin de vérifier qu'il n'y a pas d'impossibilité de mariage, qu'il n'y a pas de consanguinité ou de cas d'un précédent mariage, donc d'impossibilité de mariage. La publication des bans permet à quelqu'un donc d'intervenir, c'est au moins 6 semaines avant le mariage, et donc de souligner un interdit. Alors, ça donne parfois lieu aussi à des transferts de paroisse à paroisse, quand on veut réaliser un mariage qui ne peut pas être réalisé, on change de paroisse, on s'éloigne de sa notoriété, de sa renommée, ce qu'on appelle la fama au Moyen-Âge. Et bien sûr, il y a beaucoup donc de contrevenances à ces interdits.
Et je suppose, Julie Pilorger, que le statut du mariage à l'époque, au Moyen-Âge, en France, était bien sûr défini selon le dogme chrétien, c'est-à-dire qu'il posait la femme dans une situation d'infériorité.
Alors là, c'est un cas très problématique. La question de la place de la femme dans le droit canonique est vraiment très ambiguë. Bon, le mariage est dit monogame, indissoluble et consensuel. Donc c'est la base du mariage au Moyen-Âge. Après, dans le dogme chrétien, la femme, et c'est notamment saint Paul qui le définit, c'est ce que j'appelle moi-même la contradiction paulinienne. Saint Paul définit la femme comme l'égale de l'homme, puisque créée par Dieu. Et donc tous deux créatures de Dieu, ils sont tous deux égaux devant Dieu. Toutefois, dans le même temps, la femme est soumise à l'homme au sein du ménage. Donc il y a à la fois un statut d'égalité en tant qu'être chrétien devant Dieu, mais un statut de soumission puisque la femme doit toujours obéissance à son mari.
Avec des effets juridiques ?
Oui, alors ça varie selon les régions, selon les lois, ce qu'on appelle au Moyen-Âge les coutumes. Là encore, il faut distinguer les pays de droit écrit, traditionnellement droit écrit au sud de l'Europe et les pays dits de droit oral de coutume au nord de la France où la coutume n'est pas forcément mise par écrit, elle bouge beaucoup plus. En Flandre, il est dit effectivement que le mari, donc dans la coutume de Flandre, le mari peut exercer un droit de correction sur sa femme sans que mort s'en suive, mais il peut quand même aller jusqu'à se réchauffer les pieds dans son sang. Donc voilà, ça dépend bien sûr des coutumes. En Picardie, on dit tout de même qu'il ne faut pas qu'il y ait effusion de sang. Mais il y a quand même un droit de correction assez large qui est accordé au mari.
Et les droits vis-à-vis des enfants, comment ça se passait au Moyen-Âge, Julie Pilorger ?
Alors là encore, il y a beaucoup de nuances. Si la femme meurt, bien sûr, l'entière responsabilité des enfants revient au père. Si c'est le père qui meurt, il faut qu'il y ait une mise sous tutelle qui peut revenir à la mère, mais ce n'est pas systématique. Donc ça peut être les exécuteurs testamentaires notamment qui s'occupent de déterminer par contrat si l'autorité pleine et entière des enfants revient à la mère ou si ceux-ci sont passés sous tutelle. Or tutelle, c'est lorsqu'ils sont mineurs et on parle de curatelle quand ils sont majeurs. On peut placer des enfants pour protéger notamment leur patrimoine et du coup celui de leur père sous curatelle jusqu'à près de 18-20 ans. Puisque la majorité au Moyen-Âge, c'est 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons.
Alors, est-ce que cette vie conjugale offrait aux femmes des aspects positifs, Julie Pilorger ?
Oui, elle pouvait au sens où le centre de l'économie médiévale, c'est le ménage. C'est la maison-atelier au centre de laquelle donc exerce le mari artisan et sa femme. Celle-ci donc est son assistante, d'ailleurs les domestiques, les valets et les compagnons doivent obéissance à la femme qui peut également leur donner des ordres. Et souvent, elle aide son mari, parfois d'ailleurs, et on le voit notamment au nord de l'Europe, les femmes peuvent faire carrière dans les corporations et certaines obtiennent le statut de maîtresse, même s'il est très difficile de savoir si la maîtresse est la seule femme du maître ou si elle est maîtresse à part entière, c'est-à-dire qu'elle aurait réalisé un chef-d'œuvre. Une pièce, une œuvre maîtresse qui témoignerait de son savoir-faire. Il y a toujours effectivement une question qui subsiste là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est que la femme travaille au sein de l'atelier aux côtés de son mari, ce qui lui donne également la possibilité de gérer une partie du patrimoine. Hein, puisqu'elle possède la moitié des biens du patrimoine, elle a une légitimité aussi à participer à la vie économique. Et on remarque dans les contrats de mariage au nord de l'Europe, je parle de ce que je connais le mieux, la femme participe dès les fiançailles, elle est dite alors plévi ou franchier, elle participe déjà avant même le mariage au contrat que va réaliser le mari. Et elle est citée dans la plupart des contrats que réalise le mari. On précise toujours d'ailleurs qu'elle est là de sa bonne volonté, sans force et contrainte.
Et enfin, pour terminer, autour du statut de la femme au Moyen-Âge, en Europe, notamment en France, et en cas de disparition ou de décès du mari, est-ce que l'épouse a le droit, un véritable droit d'héritage?
Alors là encore, c'est très, très différent au sud et au nord. Au sud, la situation des veuves est assez difficile, si ce n'est pour les veuves issues de l'aristocratie qui pourraient éventuellement se reposer sur des liens familiaux et des solidarités. Ça renvoie à la question de l'histoire, notamment des émotions. Et une histoire qui est un peu nouvelle actuellement, mais il y a une très belle thèse de Lucie Lémonier qui a été réalisée sur la solitude et les solidarités à Montpellier à la fin du Moyen-Âge. Donc elle évoque cette question des veuves. Toutefois, la veuve d'un riche artisan va souvent pouvoir reprendre son métier et le continuer, ce qui va quand même lui assurer un petit pécule et un bénéfice économique. C'est pas toujours le cas et donc certaines veuves tombent dans la pauvreté. On les trouve d'ailleurs beaucoup dans les sources, alors soit dans les testaments où on voit effectivement des legs qui sont réalisés donc par des testateurs à ces veuves, soit dans les organismes de charité. Au nord de la France, la chose est différente puisque les coutumes prévoient le devenir économique de la veuve au moment du décès de son mari. Déjà, il y a la possibilité, même l'obligation, à partir du XIIIe siècle dans certaines coutumes, de constituer un douaire pour sa femme. C'est-à-dire qu'on constitue un gain de survie au moment du mariage qui reviendra à la femme au moment du décès de l'époux.
Automatiquement à l'épouse, même s'ils ont des enfants?
Oui, alors ça c'est intéressant, il y a plein de différences régionales. Vous avez le système très extrême par exemple de la ville de Douai, où les époux peuvent même réaliser des lettres d'entravestissement. C'est-à-dire que par lettre, ils peuvent se donner la totalité de leurs biens à la mort, donc respective de l'un des époux. Ça veut dire que si un homme a eu trois enfants, trois fils avec une précédente femme, que cette femme décède et qu'il en épouse une seconde avec qui il n'a pas d'enfant, que c'est de ce second mariage, il décide de faire des lettres de ravestissement, que ce mari meurt, la deuxième femme peut obtenir la totalité du patrimoine du mari et c'est les enfants issus du premier mariage, rien. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à nombre de procès d'enfants réclamant justement la fortune qui leur était due. Alors, c'est un cas extrême, mais dans la plupart des coutumes septentrionales, on prévoit la division du patrimoine, soit par moitié, moitié pour la veuve, moitié pour les enfants, soit par le tiers, en Picardie, un tiers pour le mort, alors ça peut paraître étrange, en fait c'est pour préparer les obsèques, qui coûtaient très cher, un tiers pour la veuve et un tiers pour les enfants. Alors si on parle des nullités de mariage, puisqu'on n'a pas parlé par exemple de la question de la procréation, qui est très importante dans la question donc du mariage, puisque le but premier du mariage c'est la procréation, et saint Thomas d'Aquin le définit très bien dans sa somme théologique. L'impossibilité d'enfanter va poser de grands problèmes dans l'aristocratie, notamment dans certains mariages royaux. Et on a le cas très célèbre du procès en nullité du mariage de Louis XII et Jeanne de France en 1498. Alors en fait, Jeanne de France est mariée très tôt, même dès sa naissance, à son jeune cousin Louis XII, futur Louis XII, hein, qui est fils du duc d'Orléans. Et en fait, Louis, lorsque le mariage sera célébré dans les années 1470, ne voudra jamais accepter sa nouvelle épouse, qu'il trouve très disgracieuse, ne fera aucun effort pour que le mariage réussisse, et donc finit par demander une annulation du mariage, notamment sur des questions de consanguinité, hein, qu'il ressort également, c'était cousin, mais aussi sur le fait que donc Jeanne serait difforme et qu'elle ne pourrait donc pas enfanter.
Thank you. les femmes au Moyen-Âge, loin des idées reçues. Avec la médiéviste Julie Pilorger. Les femmes au travail. Bonjour Julie Pilorger.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'il faut faire d'abord un distinguo entre la ville et la campagne quand il faudra parler des femmes au travail au Moyen-Âge?
Alors, c'est évident que le travail des femmes à la ville et à la campagne est totalement différent. Dans un monde essentiellement rural, les femmes ont jouent un grand rôle dans les travaux des champs, même si elles ne jouent pas à part égale avec les hommes. Elles sont ainsi exclues des semailles pour des raisons tant physiques que symboliques. La terre étant la femme, c'est à l'homme que revient la charge d'y faire pénétrer la semence. Cependant, elles contribuent aux fenaisons en juin, participent à la confection des gerbes de la moisson fin juillet et cueillent le raisin aux vendanges de septembre. Elles s'occupent également de la carte des troupeaux et on pense bien sûr à l'exemple de Jeanne d'Arc dans les premières années de sa vie, la bergère de Don Rémy. Voilà, et elle traite également bien sûr les vaches, les chèvres, baratte le beurre, fabrique le fromage, et c'est là qu'on peut faire le lien également avec la ville, c'est que souvent, nombre d'entre elles peuvent aller revendre en fait les fruits de ce travail à la ferme en ville. Et d'ailleurs, c'est l'idée que la ville aussi est un espace parfois de liberté pour les femmes rurales, en cela qu'elles peuvent nouer une nouvelle sociabilité en allant à la ville. Il ne faut pas opposer, ni actuellement, mais encore moins au Moyen-Âge, la ville et la campagne, puisque les deux en fait sont interconnectés.
Mais sauf que le statut de la femme, quand elle vend les produits, ça se passe pas à la campagne, c'est la ville.
C'est la ville, oui. Elle doit aller effectivement quitter la campagne pour aller à la ville vendre ses produits. Alors après, on peut imaginer que dans des hameaux, tout le monde ne possède pas effectivement ou ne cultive pas les mêmes biens et qu'après il y a un commerce, une sorte d'entraide entre ces femmes.
Et qu'en est-il pour la ville ?
Alors pour la ville, pour faire le lien donc avec la place des femmes, notamment la campagne, il y a donc trois pôles essentiels où on distingue le travail des femmes. Il y a donc le petit commerce d'alimentation, mais également de revente textile. On en vient donc au second pôle, le textile, qui est quand même l'activité par essence, selon bien sûr les médiévaux et les moralisateurs du Moyen-Âge, donc en raison de la finesse de leurs mains, donc là, le métier réservé aux femmes. Et il y a enfin les soins. Alors pour le petit...
Qu'est-ce qu'on appelle par les soins, c'est-à-dire un travail plutôt...
Alors les soins,
infirmière ou domestique?
C'est les deux. C'est domestique, on les trouve beaucoup dans la domesticité, même si on trouve peu d'informations à leur propos dans les sources. Ça va être à l'occasion d'une bagarre dans une rue, entre une servante et une autre, on va voire évoquer effectivement la présence de ce qu'on appelle souvent une mesquine. Ça fait référence à la mesnie, le foyer au Moyen-Âge. Mais on va les retrouver dans les testaments, lorsqu'effectivement les propriétaires, leurs patrons, vont parfois leur faire quelques dons. Et sinon, les soins, c'est bien les sœurs à l'hôpital qui vont donc s'occuper des pauvres, hein, parce que les hôpitaux au Moyen-Âge, c'est pas tant des espaces de soins que des espaces d'accueil des pèlerins, des pauvres bourgeois. Et on va surtout les retrouver, eh bien, aux soins des femmes en couche, avec donc les sages-femmes qui sont institutionnalisées dans diverses villes d'Europe à la fin du Moyen-Âge, afin de venir en secours aux femmes en couche, hein, puisque la mortalité infantile était très importante au Moyen-Âge. C'est un terrain assez intéressant, la question de ces sages-femmes qui vont donc se développer, notamment là encore au nord de l'Europe, à partir du XVe siècle, puisqu'elles sont parfois rémunérées par la ville, donc pour aller aider les femmes en couche. Elles sont dites détentrices d'une science, ce qui est très rare, hein, on trouve cela dans les sources, puisque à l'époque, les hommes ne touchent pas au corps féminin, en tout cas ces affaires proprement féminines, et elles ont souvent de nombreuses récompenses. Elles obtiennent donc soit un salaire annuel, soit eh bien des aides du drap en supplément ou du sel, etc. J'ai également à Amiens l'exemple d'une célèbre sage-femme, Jeanne Laborde, qui réussit à obtenir l'exemption du guet pour son mari afin que celui-ci garde les enfants la nuit tombée quand elle part aider les femmes en couche. Donc c'est la garde, le congé paternité avant l'heure, si on peut dire.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait déjà des métiers pour femmes et d'autres réservés exclusivement aux hommes?
Alors, on ne trouve pas ou très peu d'interdictions clairement stipulées où on interdirait un métier aux femmes. Après, traditionnellement, effectivement, il y a une division sexuelle du travail qui s'instaure dès le Moyen-Âge. On va davantage privilégier pour les femmes donc le travail du textile. Elles vont donc filer, tisser. On a toutes ces représentations, notamment dans Bocas, où on voit ces gentes dames qui vont filer donc autour de leur quenouille. Notamment, ça peut être aussi une activité qui est exercée à la campagne, hein, notamment en gardant les brebis. Si on étudie le livre des métiers d'Étienne Boileau, qui était prévôt de Paris sous Saint-Louis, on relève sur quelques 110 corporations l'existence de 5 métiers entièrement féminins, qui sont cette fois réservés exclusivement aux femmes et qui concernent tous le travail de la soie, et je dirais environ quand même plus d'un quart où les femmes sont présentes. Alors après, elles peuvent être présente institutionnellement, donc dans la rédaction des ordonnances, c'est mentionné au moment de la rédaction des ordonnances. Parfois, elles ne sont pas mentionnées dans les ordonnances, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas ce qu'on appelle très techniquement la diadique, on n'utilise pas la forme féminine et masculine du métier, mais seulement sa forme masculine. Mais on va retrouver plus tard dans les sources de la pratique la présence de femmes. Il faut toujours faire la différence entre cette question d'institutionnalisation, qui voudrait notamment, par exemple, que les femmes n'exercent pas le métier de barbière ou de chirurgienne, c'est-à-dire de femme médecin. Dans les faits, on trouve, notamment à Paris, plusieurs femmes médecins qui semblent exercer relativement sans problème leur métier. Toutefois, une certaine Jacqueline Félicie, qui sera originaire d'Allemagne, sera interdite de l'exercice de la médecine à la fin du XVe siècle. On note effectivement, à la fin du XVe siècle, un progressif renfermement des femmes sur l'espace privé, c'est-à-dire qu'on va progressivement, effectivement, leur interdire l'accès à certains métiers. Souvent, sous le coup d'arguments assez fallacieux, en fait. Puisque, pour prendre l'exemple d'Amiens, lorsqu'une nouvelle industrie drapière, qu'on appelle la sétrie, qui est en fait du gros drap, arrive à Amiens en 1480, les ouvriers viennent de Saint-Quentin, ils ont été chassés par Louis XI suite à la fin de la guerre de Cent Ans. Eh bien, on voit la moitié des ouvriers qui se présentent pour l'édification des ordonnances, on voit qu'il y a la moitié des ouvriers qui sont des femmes. Des femmes sont donc maîtresses, prennent même en apprentissage leur mari, elles apprennent à leurs enfants, cela pendant environ une trentaine d'années. Puis en 1511, quand on refait les ordonnances, on dit très vaguement que désormais, lorsqu'un homme et une femme exerceront le même métier de 7 heures, ça serait bien que la femme arrête, car ce n'est pas égaux pour tous que deux travaillent au même métier. Donc c'est très flou, on parle de la loi des villes du pays communément, mais en fait il n'y a pas d'antécédent.
Et cette raison c'est quoi? C'est pour répondre à une, entre parenthèses, entre guillemets surtout, une crise économique?
Exactement.
Ou c'est une mentalité sexiste qui se mettait en place?
C'est les deux. Par exemple, pour poursuivre, à Norwich, en 1511, donc à la même année, on va également interdire donc les femmes d'exercer le métier de tisserande. Mais là, ils sont plus francs. Ben, même si l'argument, je le disais, est fallacieux, ils vont interdire l'exercice de ce métier aux femmes car leur faiblesse physique ne leur permet pas d'effectuer toutes les opérations. Bon, visiblement, quelques années auparavant, ça ne posait pas problème. Donc, il y a tout d'abord, je pense, l'idée d'un monopole qui va s'installer progressivement, une idée qui est quand même très moderne. C'est déjà le début, l'avènement du capitalisme en germe. Et donc, il y a cette idée eh bien, qu'on va mettre en place un monopole et les premières personnes eh bien, qui vont être exclues de ces corporations, ce sont les femmes, les étrangers également. Je pense qu'il y a une évolution des mentalités et chez les moralisateurs, on retrouve effectivement dans le discours l'idée que la femme, que la place de la femme doit être à la maison, au sein du foyer, près des enfants.
Et est-ce qu'on peut dire que néanmoins, il y avait des femmes qui pratiquaient des métiers d'hommes?
Il y en a même beaucoup. dans le nord de la France, on voit qu'au moment de la construction des remparts, il y a un grand moment de construction des remparts au moment de la guerre de Cent Ans, hein, qui touche sévèrement le nord de la France à la fin du XIVe siècle, puisque c'est le moment où l'Angleterre multiplie les victoires. Eh bien, des femmes vont participer à la construction des remparts. On les trouve comme hautières ou cordières à porter les pierres pour construire les remparts. Il y a également des femmes orfèvresses, d'autres enlumineresses. Elles peuvent exercer également les métiers de souffleurs de verre, forgerons, maçons. Donc la question de la force physique semble être vraiment convoquée, quand ça arrange, on va dire, les jurés du métier, c'est comme ça qu'on les appelle, que ce soit pour des raisons économiques, de crise, mais également d'équilibre de l'offre et la demande.
Est-ce qu'à un certain moment, les gens ont statué, ont légiféré sur cette nature féminine et la force physique des femmes ?
Légiférer, alors ça c'est un de mes terrains encore de travail sur lesquels je m'interroge beaucoup. On a des traités, notamment on utilise des traités pour justifier une certaine faiblesse physique des femmes. On fait notamment référence aux théories de Galien, donc médecin de la basse antiquité, qui a développé la théorie des humeurs, selon laquelle la femme est à davantage un être chaud, mou, humide. Il est assez évident de comprendre pourquoi on associe l'humidité aux femmes, en raison des menstrues, alors que l'homme est un être de raison, froid, donc un être qui se maîtrise. Et on va beaucoup reprendre les théories de Galien, effectivement. Saint Paul et Tertullien ont beaucoup également écrit sur ça. Alors, sur la faute d'Ève, bien sûr, le péché originel qui a donc avili toute l'humanité et qui donc doit payer par un labeur, par un travail difficile, sa faute. Et tout ça va justifier le fait qu'on conditionne effectivement les femmes soit à des tâches très basses et assez ingrates, soit à des tâches qui ne demandent aucun effort physique.
Femme d'honneur et honneur de femme au Moyen-Âge. On va parler du pouvoir qu'avaient les femmes au Moyen-Âge.
Oui, on va parler de leur agency, c'est le terme très technique qu'utilisent actuellement les historiennes du genre, notamment anglo-saxonnes, pour parler de ce pouvoir des reines, notamment, et des femmes issues de l'aristocratie. On utilise également le terme de queenship. Donc on a véritablement forgé, et ça c'est intéressant, des termes spécifiques pour parler du pouvoir féminin. On n'utilise pas les mêmes termes que pour le pouvoir masculin, notamment parce qu'il existe... dans les cas de prise de pouvoir donc des reines, trois terminologies qu'on retrouve au Moyen-Âge. Il y a la question de la régence. En cas de décès du prince, et si l'héritier est mineur, il est alors placé sous la tutelle de sa mère. Il y a la lieutenance, lorsque le prince délègue volontairement une partie de son pouvoir à sa femme pendant son absence. Enfin, il y a la vice-régence. Alors, c'est la même chose. Donc, le prince délègue son pouvoir en cas d'absence. Mais cette fois, c'est la mère du prince et non sa femme qui... prend donc le pouvoir en son absence. On retrouve l'importance de la représentation des femmes, des bourgeois, des notables des villes donc du Moyen-Âge. Là, on est vraiment dans le milieu, dans le monde des villes, car effectivement, c'est là que la place de la femme va le plus s'épanouir. Ainsi, on va voir dans les sources la présence de vidames. Les vidames, c'est la femme du vidame, le vidame étant un auxiliaire de l'évêque, de l'abbé qui agit dans le monde. On va retrouver également le terme de mairesse, de bailleresse. Alors, il est très, très compliqué de définir exactement le rôle de ces mairesses, de ces bailleresses, mais il est évident à mon sens que si on a pris la peine de féminiser le terme, c'est qu'il y avait un rôle derrière cela, en tout cas, de représentation importante. Et on voit effectivement souvent que des cadeaux sont offerts à l'occasion de processions urbaines à ces mairesses, à ces bailleresses.
Alors, pour services rendus, j'imagine, mais c'est pour des services rendus à l'économie, à l'effort de guerre, ou juste pour des raisons religieuses?
Alors, je pense que ça peut être aussi des services rendus dans le cas de négociations. On attribue aussi beaucoup le rôle des femmes au Moyen-Âge, celui de pacificatrices. Donc, ça peut faire, je pense, référence à ça. En tout cas, On a également le cas pour la vie d'Amès, hein, de longues lettres échangées à propos parfois de procès, donc un rôle de conseil plutôt. Après, si on descend encore un cran, on a le cas de participation de femmes pour le bien et le profit de la ville, donc à la défense notamment d'une ville. Ce sont
Mais
les
là, c'est des
porteresses.
raisons économiques ou morales? Ou les deux?
Les porteresses de lettres et les messagères, je ne sais pas. Honnêtement, on connaît leur présence, mais on a encore beaucoup de mal à vraiment identifier leur origine, le rôle. Les porteresses de lettres, dans le nord de la France, semblent avoir été, selon certains historiens, parce qu'il est vrai qu'elles n'agissent qu'en période de troubles, on trouve beaucoup au moment de la guerre de Cent Ans, semblent avoir agi comme espionnes. En fait, elles auraient aidé à faire passer des messages en temps de guerre, car eh bien, on soupçonnait moins effectivement une femme de porter un message dangereux. Donc, ces porteresses, ces messagères de lettres sont récompensées donc pour leurs efforts, et on retrouve vraiment cette expression qui est pour moi très intéressante, pour le bien et profit de la ville. On a également le cas de femmes, alors de l'aristocratie, mais parfois de la paysannerie, comme Jeanne d'Arc, hein, qui vont s'exercer aussi dans les faits d'armes, donc qui vont prendre les armes.
Alors, quand vous dites femme d'honneur et honneur de femme au Moyen-Âge, vous faites allusion à quoi au juste, Julie Pilorget?
Alors, pour femme d'honneur et honneur de femme, je voulais évoquer la question des reines, des très grandes reines quand même qui ont marqué le Moyen-Âge. Si on commence au Moyen-Âge, alors il y a la figure de reine, il y a les deux, il y a parmi les reines notamment de l'époque mérovingienne, la figure de la douce reine Clotilde, hein, qui va pousser son mari à la conversion, et à l'extrême inverse, on a Frédégonde et Brunehaut, qui pendant eh bien, la Fède qui traverse la fin du VIe siècle, Grégoire de Tours raconte cela en détail, hein, vont s'entre-déchirer autour donc de leurs maris respectifs. Elles sont belles-sœurs. Et donc là, c'est vraiment la reine noire qui est dépeinte. Si on avance dans le temps, il y a les célèbres. Il y a une image plus positive de la reine, à qui on va déléguer plus de pouvoir, notamment à partir du XIIIe siècle, avec Blanche de Castille, qui est mère de Louis IX, Saint-Louis, qui obtient la régence du royaume pendant la minorité de son fils, puis sa vice-régence lorsque celui-ci partit en croisade. Il y a aussi Jeanne de Bourgogne, qui en 1338 obtient la lieutenance du royaume de donc par son mari Philippe VI de Valois, qui est engagé dans la guerre de Cent Ans et qui se bat alors sur tous les fronts. On peut encore citer Isabeau de Bavière, qui joue également un rôle politique d'importance lors des crises de folie de son roi et donc mari Charles VI. Donc la question donc de l'agency et des femmes, du pouvoir des femmes au Moyen-Âge est d'ailleurs l'un des premiers pôles étudiés par les historiens du genre. C'est les grandes recherches des années 90 et début 2000 sur la question donc, du pouvoir de ces reines. Les reines de Castille également, qui sont étudiées actuellement à l'occasion d'une belle thèse par Annabelle Marin, qui est également une de mes collègues à la Sorbonne. Les reines de Castille ont pu exercer un rôle d'importance. On pense notamment à Isabelle la catholique, héritière du royaume de Castille, qui avec son mari Ferdinand d'Aragon achève la Reconquista, hein, sur les musulmans. Et c'est elle notamment qui apporte en premier son soutien à Christophe Colomb dans ses expéditions. À un échelon inférieur, on trouve également des duchesses d'importance. Anne de Bretagne, héritière eh bien, du duché à la mort de son père en 1488, qui devient par la suite reine de Charles VIII puis de Louis XII, mais également les femmes de la maison d'Anjou, hein, qui ont eu un rôle d'importance. Marion Chêne a beaucoup travaillé là-dessus, puisque leur mari, qui est également implanté donc, dans le royaume de Naples, hein, les Angevins exercent une grande importance dans le royaume de Naples à la fin du Moyen-Âge, se sont retrouvées, donc, ces femmes, à de nombreuses reprises, à exercer des lieutenances qui témoigne aussi bien de la capacité des femmes à gouverner politiquement tout autant que les hommes.
Est-ce que je peux conclure, Julie Pilorget, en disant que ce sont les guerres médiévales qui ont donné plus de statut
tout
aux
fait.
Femmes?
C'est tout à fait vrai, puisque que ce soit d'un point de vue donc de la participation militaire de ces dernières, quand on pense aux chevalières, du rôle qu'elles ont pu jouer dans la circulation de l'information ou en termes de gouvernement effectif politique, c'est effectivement les guerres et les conflits de manière générale qui ont permis en tout cas aux femmes d'obtenir un rôle politique.
Et qu'est-ce qui se passe en temps de paix ?
Eh bien, en temps de paix, effectivement, on entend beaucoup moins parler d'elles. Ça ne veut pas forcément dire, à mon sens, qu'elles ont moins de pouvoir. Elles peuvent sûrement intervenir également dans les décisions. Mais en tout cas, les sources, et c'est ça aussi sur quoi il faut insister, puisque les sources médiévales ont un caractère très androcentrique. Elles sont rédigées par des hommes à l'intention des hommes. Donc, effectivement, en temps de paix, eh bien, on parle un peu moins des femmes.
Est-ce que les femmes, Julie Pilorget, étaient honorées, décorées, reconnues comme telles après des batailles? Est-ce qu'elles avaient un poste? Est-ce que dans la hiérarchie de la société médiévale de l'époque, elles commençaient à grimper les échelons?
Non, parce que là, ça pose la question de l'institutionnalisation, ce qui va d'ailleurs provoquer, hein, quelque part, le retrait des femmes sur l'espace privé à l'extrême fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne. La question de la reconnaissance et de l'institutionnalisation du pouvoir féminin, que ce soit un pouvoir d'ordre politique, comme on l'a évoqué ici, d'ordre militaire, mais également économique dans la vie de tous les jours, pose beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que les femmes souffrent d'une reconnaissance, ce qui a longtemps fait dire aux historiens qu'elle n'apparaissait pas dans les sources. Et d'ailleurs, c'est une idée qui perdure encore, parce que moi-même, quand j'ai commencé ma thèse, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans, on m'a dit que je ne trouverais rien dans mes sources du nord de la France, puisqu'il n'y avait pas de femmes. Elles sont là, mais effectivement, il faut savoir les chercher, car elles s'accèdent très rarement, en fait, à la reconnaissance et à l'institutionnalisation qu'elles mériteraient. Et il faut donc savoir lire entre les lignes, voire également derrière l'utilisation parfois d'une forme féminine discrète, la présence d'une femme qui se cache. Et l'exemple de Jeanne d'Arc est le plus frappant, hein, puisque le roi ne fera rien pour soutenir Jeanne d'Arc. Alors déjà, une fois qu'il est couronné, eh bien lui, c'est tout ce qu'il voulait. Alors après, le film de Besson, montre particulièrement cet aspect-là, hein, montre c'est le roi qui lâche véritablement Jeanne d'Arc et ne la livre pas aux Anglais, mais en tout cas il ne fait rien pour empêcher sa captivité. Donc l'exemple de Jeanne d'Arc, je pense, montre à quel point il est difficile pour les femmes quand même au Moyen-Âge d'obtenir bien un pouvoir pérenne, puisque même les reines ont une régence un temps, mais sont jamais que femme du roi avant tout.
Voilà, ça c'est côté cour. Côté jardin, s'il fallait parler de la cellule familiale, de l'éducation des enfants, est-ce que les femmes ont plus de droits ou autant de droits que les hommes au Moyen-Âge, Julie Pilorget?
Elles ont des droits, alors autant ou plus, c'est difficile de le qualifier, car on dispose pas forcément de sources à ce propos. On peut mentionner en tout cas l'existence de nombreux traités d'éducation qui sont destinés aux femmes, mais qui sont à l'usage d'hommes, puisqu'ils sont écrits par des hommes, et pour que les hommes les lisent, et après, eh bien, digèrent, on va dire, l'information et la retransmettent à leurs femmes. Il y a notamment le Ménager de Paris, qui est un traité d'économie domestique, écrit à la fin du Moyen-Âge, par un vieux bourgeois à sa bonne épouse, et qui lui donne donc de nombreux conseils quant à la façon dont ils doivent se comporter vis-à-vis de lui, mais également éduquer leurs enfants. On a également dans le même genre le livre du chevalier de la Tour Landry pour ses filles. Donc on va donner des conseils.
Et on n'a pas l'inverse.
Et on a un exemple, à ma connaissance, qui est un peu particulier, qui est plus ancien, c'est le traité de Duodat. Duodat, qui était une aristocrate du 9e siècle. Alors, donc là, on est sous les Carolingiens. Son mari part à la cour de Charles le Chauve en Aquitaine et donc laisse sa femme dans les fins fonds des Pyrénées, il me semble, si je me souviens bien. Et donc cette femme doit laisser partir son fils aîné, âgé d'une quinzaine d'années à peu près, mais surtout son nouveau-né, qui était encore au sein. Et donc, puisqu'elle doit vivre loin d'eux, elle va leur écrire un traité d'éducation. Et on le voit qu'elle insiste beaucoup, notamment sur l'importance pour ses deux fils, d'honorer les ancêtres, d'être aussi des hommes pieux et de respecter la religion. Donc, il semble que la femme avait un rôle d'importance pour ce qui est la question de la mémoire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup hein, lorsqu'on utilise la question du veuvage. Les femmes ont un rôle de transmission de la mémoire.
Et qu'est-ce qu'elles transmettaient comme organisation, comme idée de l'organisation de la cellule familiale, entre le partage des genres, par exemple?
Alors, je pense qu'elles enseignaient ce que la coutume de leur pays leur faisait enseigner. C'est-à-dire que on peut supposer effectivement qu'au nord de la France, une femme qui va prendre en apprentissage sa fille va effectivement lui donner également quelques ficelles pour mener un ménage, pour organiser après l'atelier auprès de son mari. Dans le sud de la France, où effectivement le travail des femmes est plus discret, il semble qu'on insistait surtout sur les rôles de la bonne épouse. Féminine est un sujet qui a été traité très tardivement, longtemps ignoré par l'historiographie. Alors, soit que la question apparaît moins dans les sources, c'est une réalité, soit si en raison d'une certaine pudeur, hein, c'est Michel Perrault qui l'évoquait, grande spécialiste d'histoire des femmes au Moyen-Âge, une pudeur des historiens qu'on retrouve notamment chez certains criminologues, notamment Paul Cariou, hein, criminologue à Pau. J'ai lu récemment dans un de ses articles, il disait que la femme résiste naturellement au crime. C'est naturellement faux, bien évidemment. On estime à peu près la présence des femmes parmi les individus délinquants. Hein, ça recouvre l'ensemble des crimes et délits pouvant être commis par les femmes. Elle représente à peu près 15 à 20% des individus incriminés à la fin du Moyen-Âge. Alors on les retrouve essentiellement dans la petite et la moyenne criminalité pour des condamnations de vol, paroles injurieuses ou coups et blessures, sachant que la justice médiévale distingue les coups et blessures des blessures à sang couvrant, c'est-à-dire avec effusion de sang. En tout cas, il est intéressant de réfléchir sur la question de la violence féminine au sens large, parce que j'inclus personnellement dans le terme de violence également la violence verbale. Ce n'est pas le choix de tous les historiens de la violence, ni les philosophes, mais je pense, à mon sens, la violence ne se limite pas à l'exercice d'une force physique sur autrui. Il est certain que les fabliaux médiévaux, mais également les sources municipales hein, de la pratique, ne manquent pas de mégères à la langue bien pendue. Pourtant, on s'est longtemps refusé à penser la violence des femmes. Pourquoi ? C'est intéressant de remarquer, tout d'abord, que le terme de violence est fondé sur le latin vis, qui renvoie également à la virilité. Comme si, étymologiquement, la violence ne pouvait être que masculine. Or, quand on réfléchit, parmi les grandes figures mythiques de l'histoire des femmes, on trouve quand même un certain nombre de femmes violentes. Ève, par la faute, est responsable d'un certain nombre de vices et surtout d'une série donc, de crimes, une sorte de crime contre l'humanité quelque part. Il y a Pandore, il y a Lilith, il y a la figure de la sorcière. Il y a toujours cette idée, j'avais évoqué la question, la théorie des humeurs qui avait été développée par Galien. La femme, c'est l'être chaud, mou, humide, c'est l'être de passion, alors que l'homme est l'être de raison. L'être de la passion, c'est aussi ce qui peut mener à la violence. Donc il y a, à mon sens, vraiment une ambiguïté, enfin même une contradiction à ne pas vouloir penser la violence féminine, alors qu'on a longtemps fait quand même des femmes, des êtres victimes de leur pulsion, victime bien du péché originel et surtout qui pouvait effectivement avoir la langue bien pendue.
Mais ça, c'était présent au moins dans les histoires qu'on se racontait à l'époque, dans les contes.
C'est présent dans les contes, effectivement. Mais c'est présent aussi si on étudie. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment une distinction à faire. Très tôt, la figure de la mégère, de la femme qui porte la culotte. Hein. D'ailleurs, je me suis rendu compte en faisant mes recherches que cette expression « porter la culotte » renvoie en fait à une série un type de poème flamand du XIIe-XIIIe siècle qui racontait cette histoire donc de la femme qui porte la culotte. Et on trouve des représentations dans certaines cathédrales. Hein. Vous savez que les chapiteaux colonnes présentes dans de nombreuses églises au Moyen Âge rapportent souvent des scénettes de la vie quotidienne. Et j'ai trouvé dans plusieurs églises, en tout cas chapiteaux d'églises, représenter cette scène de la lutte pour la culotte, qui va porter la culotte du ménage. Donc il y a très tôt, effectivement, les spécialistes de littérature médiévale vont étudier cette figure féminine violente. On va tarder à analyser la figure de la mégère dans les sources, en raison notamment donc du manque de sources à ce propos. Donc on redécouvre progressivement des sources nous permettant de traiter la question de la violence féminine. Pour le coup, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin.
Mais quand vous dites la mégère, c'est-à-dire c'est une violence verbale.
Pas que.
Pas que.
J'aime beaucoup commencer ma présentation sur la question de la délinquance féminine par un extrait du Livre Rouge d'Abbeville. Alors Abbeville, qui est une ville qui se situe en Baie-de-Somme, un peu au nord d'Amiens. Le Livre Rouge, c'est un livre de justice compilé entre le XIIe et le XVe, XVIe siècle, qui est une compilation des aux faits et crimes donc qui se sont déroulés dans le comté de Ponthieu pendant ces trois siècles. Et ce livre doit servir en fait comme modèle à d'autres juristes. Alors bien sûr, on va sélectionner d'abord des faits de grande criminalité, mais les femmes n'en sont quand même pas totalement absentes. Et dans ce livre, j'ai trouvé l'exemple d'une femme qui battait à mort son mari. Les femmes sont aussi coupables, eh bien, d'infanticide et parfois d'avortement, ce qu'on appelle l'ENSI, souvent au Moyen-Âge. Et là, on touche vraiment à des crimes physiques. Donc la violence physique des femmes est une réalité. D'ailleurs, si statistiquement elle est moins présente dans les sources, elle a beaucoup plus retenu l'attention des juristes du Moyen-Âge hein, que les petits crimes. Et la plupart de la jurisprudence sur les condamnations spécifiquement féminines, hein, puisqu'on trouve une distinction dans les châtiments, notamment corporels, entre hommes et femmes, est le fait donc de juristes qui ont statué sur les crimes de sang spécifiquement féminins. Et je pense notamment à l'auteur du livre de Justice et de Plaie, un très célèbre livre de justice du XIIIe siècle, et bien sûr les coutumes de Philippe de Beaumanoir. Et on remarque que les crimes de sang qui vont contre la nature de la femme, hein, parce qu'il y a cette idée que la femme donne la vie, donc elle ne peut pas la retirer, sont vraiment traités avec la plus grande violence. Ainsi, une femme victime d'infanticide est placée sous le bûcher, alors que normalement, on réserve la peine du bûcher essentiellement aux hommes, aux sorcières également. Mais la grande période de la chasse aux sorcières, contrairement à ce qu'on croit, c'est plutôt l'époque moderne, et pas tant le Moyen-Âge. On place très rarement en réalité les femmes sur le bûcher, mais plutôt les enfouit toutes vives. C'était une manière, je pense, eh bien, de ne pas prêter le coup fatal, de ne pas tuer la femme qui enfante, mais on l'enfouit sous la terre, loin du monde, dans l'espace privé, loin de la vie publique. Et donc, on va avoir toute une législation quant à ces peines corporelles imposées aux femmes qui auraient tué leur mari, tuer leur enfant ou tuer parfois aussi des représentants de l'autorité publique, ça arrive.
Et cette justice s'applique de la même manière à une femme ordinaire qu'à une femme de l'aristocratie, par exemple ?
Bien sûr que non. Les coutumiers, les livres de justice médiévaux estiment que, en raison de la faiblesse de sens de la femme, elle doit être jugée avec moins de rigueur que l'homme. la renommée de la femme joue énormément dans l'application de la peine ou non. Le fait qu'elle soit entourée compte énormément, beaucoup, puisqu'il arrive souvent que des maris prennent sur eux la peine de leur femme. Il faut comprendre aussi que toute une série de crimes, alors là je ne parle pas des crimes contre nature, hein, où là, vraiment, que vous soyez aristocrate, que vous ayez une bonne ou mauvaise renommée, ça, vraiment très dur pour vous de vous sortir de ce mauvais pas. Mais pour des crimes de vol, d'injure, effectivement, on remarquera qu'une femme entourée purge rarement sa peine. Une femme qui n'a pas les moyens de payer l'amende purgera peut-être 3 à 4 semaines de prison. Parce que la prison au Moyen-Âge est plus préventive, empêcher le détenu de s'enfuir. Et c'est une peine compensatoire, souvent lorsque la personne ne peut pas payer l'amende qu'on lui impute. Mais il faut effectivement comprendre qu'il y a aussi le droit de main burni du mari, c'est-à-dire la possibilité, on l'évoquait dans la première émission, pour le mari d'exercer un droit de correction sur sa femme. Il est évident que toute une partie des crimes féminins se réglait dans le privé.
Les femmes au Moyen-Âge par Julie Pilorger est à retrouver sur franceculture.fr pour l'écoute en différé ou le podcast à la page de l'émission Tête chercheuse ou à la page de l'émission Un autre jour est possible, puisque vous le savez, tous les samedis matins cet été, on rediffuse les meilleures têtes chercheuses diffusées durant la saison d'Un autre jour est possible. Bon week-end d'été sur France Culture et à samedi prochain.